Vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Nous lirons les versets 14 à 16. Alors, on va continuer la deuxième partie du message qu'on avait commencé il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on avait la question qu'on s'était posée, c'est pourquoi nous devons faire confiance à Jésus. Et on avait trouvé trois réponses dans ces versets. D'abord, parce qu'il a la capacité de voir tout le temps ce que vous vivez, versets 13 et 14. Deuxièmement, parce qu'il a la capacité de compatir à notre douleur. Et troisièmement, verset 15. Et troisièmement, parce qu'il a la capacité de résoudre tous nos problèmes, verset 16. Et ce matin, on va s'arrêter un peu plus sur le verset 15 et le verset 16. Et on va d'abord commencer par relire ces passages. Alors, verset 13, « Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Tout dans l'ensemble de la création se trouve à nu et à découvert devant ses yeux. Et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusque dans la présence de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais il n'a pas commis de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où est la grâce, nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment. Prions. Seigneur, conscient ce matin que nous nous présentons devant un Dieu trois fois saint, nous nous en remettons à toi, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, l'enseignement que tu veux nous transmettre ce matin. Seigneur, que cet enseignement puisse nous encourager, nous fortifier, puisse aussi nous édifier, afin que nous sortions d'ici, Seigneur, en ayant notre foi qui est progressée dans notre connaissance et dans la personne de Jésus-Christ. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu nous as donné ta parole. Et lorsque nous nous posons des questions, Seigneur, si nous passons du temps dans ta parole, nous y trouvons toutes les réponses dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as laissée, qui est sainte, qui est pure. Merci pour cette parole, Seigneur, parce qu'elle nous permet de savoir la sorte de vie que tu nous demandes de vivre. Et Seigneur, nous te prions de continuer à faire ton œuvre en nous, afin que nous puissions ressembler davantage à la personne de Jésus. Et c'est en son nom que nous en remettons ce matin. Amen. L'Épître aux Hébreux s'adresse à un groupe de Juifs qui vivaient à l'extérieur de Jérusalem. Et l'auteur s'adresse ici à cette communauté afin de les encourager dans leur marche avec le Seigneur. Bien que la grande partie de ce livre s'adresse à des croyants pour les encourager à demeurer fidèles à leur engagement pris avec le Seigneur Jésus-Christ, ce livre s'adresse aussi à des Juifs qui avaient non seulement abandonné le judaïsme, mais qui n'avaient pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et l'auteur de cette épître les invite à faire confiance à Jésus afin de pouvoir entrer dans son repos et être sauvés. En Hébreux chapitre 4, les versets 1 à 13, qu'on n'a pas lu, mais dans les versets 1 à 13, c'est ce qu'il mentionne. Et jusqu'à présent, l'auteur avait surtout appuyé sur le côté négatif de l'Évangile, c'est-à-dire le message que ces Juifs avaient entendu était le suivant, « Si vous ne venez pas à Jésus-Christ, vous serez condamnés. » Il appelle donc les Juifs qui n'étaient pas convertis à échapper à l'enfer en venant à Jésus pour être sauvés. Maintenant, l'auteur va appuyer son message sur le côté positif de l'Évangile. « Même si le salut nous évite d'aller en enfer, il nous apporte tellement plus, dit-il. Car non seulement le fait d'être sauvé nous délivre de la mort éternelle, mais il nous donne aussi la vie éternelle et il change notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. » Ceux qui sont perdus se présenteront devant le Seigneur pour être jugés, et ceux qui ont été rachetés passeront l'éternité avec leur Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Les Juifs qui avaient reçu cette lettre essayaient d'avoir accès à Dieu à travers un prêtre humain. Et l'auteur de l'Épître veut que ces Juifs sachent que la foi qui sauve, en Jésus-Christ, fournit un chrétien, un grand prêtre de loin supérieur à tous ces prêtres humains qui offraient des sacrifices le jour de l'expiation, c'est-à-dire lors de la fête du Yom Kippour. Ce passage met en lumière, frères et sœurs, les caractéristiques qui font en sorte que Jésus est digne d'être appelé notre grand prêtre. Maintenant, quand on parle de Jésus qui est notre grand prêtre, C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas un, disons que c'est pas un thème facile à aborder, mais j'espère que vous trouverez beaucoup de réconfort à travers ces versets qu'on va regarder ce matin. Et j'ai essayé autant que possible de simplifier cette notion de grand prêtre, d'essayer de pas trop rester dans un jargon évangélique, mais compréhensible pour tous, quand on va, pour la première partie du message, en tout cas, quand on va parler de notre grand prêtre. Au verset 14, eh bien, on apprend que notre grand prêtre, Jésus-Christ, il est supérieur. Supérieur à tous les grands prêtres humains qu'il y avait dans le passé. Les anciens juifs, ils dépendaient de leur grand prêtre. C'était que celui qui les représentait devant le Seigneur, c'était celui qui intercédait pour eux devant le Seigneur et qui offrait des sacrifices d'expiation pour leurs péchés. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ça va, hein? Je pense que c'est simple. Le grand prêtre était quelqu'un de très important dans leur vie, dans leur culture et dans leur relation avec Dieu. C'était quelqu'un de très important. C'est si on prend les Juifs aujourd'hui qui sont dans les synagogues, le rabbin, c'est le centre de toute la communauté. On a des questions à poser, on va voir le rabbin. On a des difficultés, on va voir le rabbin. C'est le centre. Et ici, le grand prêtre, dans la culture juive, c'était vraiment le centre de la communauté. C'est important pour les Juifs. Ils avaient eux aussi non seulement besoin de pardon, les grands prêtres, tout comme les gens du peuple qu'ils représentaient, mais ils étaient des pécheurs aussi comme les gens qu'ils représentaient, et ils étaient sujets à pécher tout comme les gens qu'ils représentaient. Mais voilà, notre grand prêtre, frères et sœurs, est supérieur parce que ce n'est pas seulement un grand prêtre humain, mais parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est non seulement sans péché, mais la parole nous dit qu'il n'a jamais commis de péché, il n'a donc pas besoin de pardon, car il est parfait. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est d'autant plus supérieur à tous ces anciens grands prêtres qui l'ont précédé. Il est supérieur dans ce qu'il peut accomplir pour nous, frères et sœurs. Une fois par année, c'est-à-dire le jour de l'expiation, le grand prêtre offrait un sacrifice pour l'expiation d'abord de ses péchés. Il ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint sans d'abord avoir fait un sacrifice pour ses propres péchés. Et il entrait dans le lieu très saint, il rentrait dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice pour l'expiation des péchés du peuple. Avant de pouvoir, comme je viens de dire, avant de pouvoir entrer dans le lieu très saint, eh bien, c'est intéressant, j'ai eu un commentaire qui disait que souvent le grand prêtre, il prenait même jusqu'à une semaine avant d'offrir ce sacrifice, il ne rentrait pas n'importe où, hein. Et moi, je pense que c'est un bon enseignement pour tout. Je pense que c'est un bon enseignement pour nous tous. Quand on rentre le dimanche à l'église, eh bien, on devrait se rappeler qu'on ne rentre pas dans un café, qu'on ne rentre pas dans une salle omnisports, qu'on ne rentre pas n'importe où. On vient se présenter devant le Seigneur. On vient, en tant que peuple, on vient se réunir dans le Seigneur et on vient offrir nos louanges, on vient offrir notre adoration à celui qui nous a sauvés, à celui qui règne sur nous. Et le grand prêtre, il prenait ça au sérieux parce qu'il aurait pu être foudroyé s'il commençait à jouer avec les baskets du Seigneur puis à entrer dans le lieu très saint sans avoir fait d'abord le sacrifice pour recevoir le pardon de ses péchés. Et dans les commentaires que j'ai lus, le grand prêtre, il prenait jusqu'à une semaine. Pendant la semaine qui précédait le sacrifice, il prenait une semaine, il faisait pratiquement une retraite fermée pour laisser Dieu, il lisait la loi, pour laisser Dieu l'examiner pour voir s'il n'y aurait pas un péché dans sa vie qu'il n'avait pas confessé ou qu'il devait confesser. Et là, il offrait le sacrifice d'expiation pour ses propres péchés. Le grand prêtre, il prenait ça au sérieux. Et après, eh bien là, il prenait, au nom du peuple, il rentrait dans le lieu très saint et là, il offrait un sacrifice pour tout le peuple, pour l'expiation des péchés du peuple. C'était quand même un rôle fort important. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on a besoin de se rappeler qu'on est tous des prêtres en Jésus-Christ. Tous des prêtres en Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous demande non pas seulement de confesser nos péchés le jour où on se convertit, mais de faire régulièrement un examen de conscience pour voir s'il n'y a pas des péchés dans nos vies qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Qui empêche Dieu de pouvoir non seulement nous bénir, mais bénir aussi ceux qui sont autour de nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir dans des hauts puis tomber dans des pics. Je ne parle pas ces dernières années, mais ça m'est déjà arrivé. Ça fait 33 ans que je suis chrétien. Et à quelque part, ça se ressent dans la famille, ça se ressent dans la communauté que tu fréquentes quand ta relation n'est pas nécessairement ce qu'elle devrait être avec le Seigneur. Et en tant que prêtre en Jésus-Christ, le Seigneur, il nous demande de faire un examen de conscience à chaque jour, en tout cas, moi, je le fais à chaque jour, pour voir s'il n'y a pas rien qui empêche le Seigneur ou le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu dans la Nouvelle Alliance, en tant qu'enfant de Dieu, s'il n'y a rien qui nous empêche de pouvoir venir devant son trône de grâce et pouvoir le louer et pouvoir l'adorer. Amen. Alors, le grand prêtre prenait le sang du sacrifice qu'il venait d'accomplir. Il entrait dans le lieu très saint et il répandait sur le propitiatoire, c'est-à-dire, on va prendre un jargon très français, là, sur le couvercle du coffre, parce que le propitiatoire, c'était un coffre, et il en aspergeait les quatre coins. Voilà. Et là, en fait, lorsqu'il avait terminé, il devait se retirer de la présence du Seigneur, et le grand prêtre, il devait répéter ce rituel à chaque année. Maintenant, souvent, on entend dans le jargon, dans le milieu évangélique, que le grand prêtre, on y attachait une corde avec une chaînette. Quand il rentrait dans le lieu très saint, eh bien, s'il n'était pas pur, il était foudroyé par le Seigneur. Et là, quand les gens, ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Donc, il est censé prendre une heure, il est rendu, ça fait 3 heures qu'il est là. Eh bien, on tirait sur la corde, c'est parce que le grand prêtre avait été foudroyé. Mais honnêtement, j'ai appris que c'est une légende. On ne trouve pas ça nulle part dans la parole de Dieu, quoi. Nulle part. Et quand on pense à Zacharie, qui avait été faire son service dans le temple du Seigneur, eh bien, quand les gens ont vu qu'il tardait, il n'y avait même pas de question d'être attaché avec une chaîne ou avec une corde, mais il est sorti parce qu'il avait manqué de foi envers le Seigneur, il avait douté, eh bien, il était sorti, il avait perdu la parole jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Mais j'ai appris ça, pourtant, en entendant les uns et les autres, j'étais convaincu que le grand prêtre, quand il rentrait dans le lieu très saint, on l'attachait avec une corde, avec des petites clochettes. Et quand on n'entendait pas les clochettes, bien là, c'était le temps de le tirer, quoi, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais finalement, j'ai lu que ça ne se trouve pas nulle part dans la parole. Voilà. Mais je trouve que c'est une belle histoire. Ça nous rappelle simplement le sérieux qu'on doit avoir quand on se présente devant le Seigneur. On ne se présente pas devant qui? On se présente devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre. Et pour se rendre au lieu très saint, le grand prêtre devait traverser 3 portails, il devait franchir la porte qui se trouvait dans la cour du tabernacle, il devait franchir la porte qui mène au lieu saint, et il devait traverser le voile qui se trouvait dans le lieu très saint. Et Jésus est supérieur dans ce qu'il a accompli parce qu'il n'a jamais péché. Donc, ce n'est pas le sang du bouc, d'un bouc qu'il a offert comme sacrifice d'expiation, mais son propre sang. Étant sans péché, c'est nos péchés qu'il a portés dans son propre corps sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions une vie comme Dieu le demande. Afin que nous mourions au péché, frères et sœurs. Pas que nous végétions dans le péché, pas que nous soyons un jour dans le péché, pas un autre jour dans le péché, afin que nous mourions au péché. Et ça, c'est la nouvelle naissance qui nous permet de vivre cette mort. C'est important de se rappeler de ça. Jésus n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes, qui ne serait qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. Et si le grand prêtre du peuple juif entrait chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal, le Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois lui-même. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Il s'est offert une seule fois et sur la croix, il a dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Il a offert son propre sang comme paiement éternel pour régler la dette de mon péché, de votre péché, la dette du péché. C'est important. C'est important qu'on se rappelle de ça, d'où on vient. D'où on vient. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et moi, à un moment donné, en préparant le message, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas demandé autre chose qu'une victime? Pourquoi tu n'as pas demandé autre chose qu'une victime? Mais une victime innocente. Pourquoi? Et cette nuit, j'ai des problèmes avec le Seigneur. Hein? Il me réveille toujours à 3 heures du matin, 3 heures et demie, et finalement, je tourne en rond, puis on parle ensemble. Mais ça me permet de méditer les Écritures. Et le Seigneur m'a dit, écoute, c'est simplement pour montrer jusqu'à quel point le péché est grave pour moi. Le prix que ça coûte quand vous commettez un péché. Rappelez-vous toujours le prix que ça a coûté. C'est vrai que j'aurais pu prendre un lapin puis me satisfaire d'un lapin. C'est vrai que j'aurais pu prendre une poule, me satisfaire d'une poule. C'est vrai que j'aurais pu prendre un bouc, me satisfaire d'un bouc. Mais le bouc, il n'efface pas le péché, il fait juste le couvrir. C'est pour ça qu'on doit répéter à chaque année dans le peuple juif les sacrifices. Ça ne faisait que couvrir. Mais l'agneau de Dieu, il efface. Il ne couvre pas, il efface. Frères et sœurs, le Seigneur est exigeant. Il savait que personne sur la terre pouvait répondre à cette exigence. Il savait qu'il y en avait un seul, et c'était lui-même. Et vous voyez toute la dimension de l'amour de Dieu. C'est incroyable. Et si le Seigneur n'était pas intervenu, il n'y a personne qui se serait tourné vers lui. Le premier sacrifice dans la parole, c'est Dieu lui-même qui le fait pour couvrir Adam et Ève d'habits. Il y a une victime innocente, il y a un animal, deux, les couvrir, je ne sais pas si c'était une peau, deux peaux, mais Mais il y a des innocents, il y a un animal innocent qui est mort pour un coupable. Quelqu'un qui avait désobéi à Dieu. Et c'est Dieu qui fait le premier sacrifice. L'homme est nu, la femme est nue, et il les couvre. Il le couvre à travers ce sacrifice, il leur met un vêtement. Et là, avec Jésus, eh bien, nos péchés sont effacés. Jésus est un grand prêtre supérieur parce qu'il a obtenu le pardon de nos péchés et il nous a délivrés de nos péchés lorsqu'il est mort sur la croix. Et frères et sœurs, on en a parlé. On a eu un bon temps, Ernest, hein, jeudi soir. Jeudi soir, à la réunion de prière. Sabrina? Merci. Et on a parlé ce qui est important. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on a tous un arrière-plan théologique. Et le danger, c'est que si on garde cet arrière-plan théologique qu'on a reçu, c'est qu'on est obligé, à partir des présupposés, d'interpréter la parole d'une certaine façon. Je pense qu'on a de grands exemples devant nous qui nous montrent que c'est vrai que la théologie, elle est bien, mais c'est une théologie biblique qu'on doit avoir. L'Église doit avoir une théologie biblique aujourd'hui parce que c'est éloigné depuis des années de cette théologie. Et ce qui est important, c'est de lire les Écritures parce que les Écritures ne se trompent pas. Lorsqu'on parlait que l'homme ne vivrait pas plus de 120 ans au déluge, eh bien, pendant des années, moi je me souviens au début de ma vie chrétienne, on me disait, ben écoute, le maximum que l'homme peut vivre, c'est 120 ans. Eh bien, si la parole ne se contredit pas, j'ai un gros problème avec ça, parce qu'il y en a plusieurs après le déluge qui ont vécu plus que 120 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jargon hébraïque, et ça veut simplement dire ceci, mon jugement Noé va arriver dans 120 ans. Alors, prêche l'Évangile, construis le bateau que je t'ai demandé, et parce que dans 120 ans, c'est la limite. Ça va être la limite pour moi, il y aura un jugement qui va arriver. Mais si vous gardez un arrière-plan théologique qui n'est pas biblique, bien vous risquez de dire, « Ben oui, c'est vrai, mon pasteur a enseigné que 120 ans, on ne pouvait pas vivre plus que ça. » Bien, 120 ans, parce qu'on a déjà Jeanne Calment ici, une Française qui est morte à 122 il y a quelques années. Donc, la parole se contredit. Donc, le beau défi pour nous, hein, et c'est pour ça que moi, j'apprécie John Wesley, pas parce que je suis arménien, pas parce que je suis wesleyen, mais c'est un homme qui a fait 15 ans de théologie, mais c'est une théologie biblique. C'était quelqu'un qui ne voulait rien savoir de ce qui était calviniste, de ce qui était arménien. Lui, il disait, je ne suis pas disciple de Calvin, je ne suis pas disciple d'Arminius. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ et moi, je veux plonger mes regards dans la parole parce que je veux que ce soit Jésus qui me donne les réponses à notre parole. Et c'est vraiment, vraiment important qu'on recommence à plonger nos regards dans la parole en disant, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Partage ta vérité dans mon cœur, Seigneur. Dévoile, comme le Seigneur dit dans l'Apocalypse, que ton esprit parle à mon cœur, Seigneur. Amen. On a un grand prêtre qui est vivant, frères et sœurs. Et c'est important pour nous de dire, je ne veux pas savoir ce que les hommes disent, je ne veux pas savoir quelle faculté théologique dit. Moi, Seigneur, je veux savoir ce que toi, tu enseignes, Seigneur. Et Seigneur, je sais que tu ne te contredis pas. Donc, si j'interprète, puis à quelque part, j'ai un autre verset qui dit le contraire, c'est pas toi qui se contredis, c'est moi qui ai quelque chose qui n'a pas compris. Et là, ça vous pousse à méditer les Écritures. Et c'est extraordinaire parce que les Écritures, c'est un trésor. C'est un trésor. Et Dieu n'était pas obligé de nous donner ce trésor. Frères et sœurs, on passe à côté de tellement de choses aujourd'hui. On est dans une génération qui s'accroche à tout ce qui brille, à tout ce qui rapporte, à tout ce qui est beau. Mais on passe à côté de la plus belle chose que Dieu nous a donnée. On passe à côté de la plus belle personne que Dieu nous a donnée, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cercles chrétiens, les chrétiens ne sont pas satisfaits, parce qu'ils ont leurs yeux portés ailleurs que sur la parole. Jésus est supérieur aux membres du peuple. Les Juifs étaient des gens inconstants. Peu importe le nombre de fois que les prêtres faisaient des sacrifices pour l'expiation des péchés, les Juifs étaient portés à abandonner leur engagement qu'ils avaient pris envers le Seigneur. Et il leur est arrivé à plusieurs reprises de s'éloigner de Dieu. Et Jésus est supérieur au prêtre humain parce que ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont été pardonnés et libérés à travers son sacrifice, persévèrent dans l'engagement qu'ils ont pris avec lui. Il nous est tous arrivé de sombrer, mais ceux qui ont la foi qui sauve continuent à marcher avec lui. Amen. Hein, oui, c'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. J'avais moins de problèmes dans le monde que depuis que je suis chrétien. C'est vrai que c'est pas facile. Mais rappelez-vous d'une chose, toutes les difficultés que vous vivez, ce n'est pas pour vous détruire, pour vous démolir, mais c'est pour vous faire grandir dans votre connaissance de la personne de Jésus-Christ et surtout dans votre foi, parce que vous allez voir Dieu agir. Si vous êtes en règle avec lui, vous allez voir Dieu agir. Vous allez voir Dieu agir. Dieu agit encore puissamment aujourd'hui, qu'il l'a fait avec Moïse, qu'il l'a fait avec Abraham, qu'il l'a fait avec David, qu'il l'a fait avec tous ceux qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, on peut faiblir, on peut chanceler, mais Dieu ne nous laisse jamais tomber. Et une des caractéristiques qui ressort de celui qui est véritablement sauvé, c'est qu'il a expérimenté la nouvelle naissance. Et ce qu'elle produit, c'est une vie transformée. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors arrêtons de faire des thérapies pour essayer de libérer quelqu'un qui a vécu quelque chose à 10 ans, puis à 11 ans, puis à 13 ans, puis qui a 30 ans, puis qui vient au Seigneur. Si tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Il y a une certaine école de relations d'aide qui fait exactement ce que le prêtre faisait dans un confessionnal catholique. Mon père, je m'accuse d'avoir commis tant de péchés. Ah oui, ben fais-moi la liste, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben, un péché d'impureté. Raconte-moi en détail. Raconte. C'est épouvantable, quoi. Il n'y a pas à savoir ça, quoi. C'est Dieu, hein? Dieu confesse, l'homme confesse ses péchés à l'homme, à Dieu, hein? Maudit soit l'homme qui confesse ses péchés aux hommes. C'est ça que la parole dit, hein? C'est pas moi qui l'invente, hein? Et dans la relation d'aide, c'est extrêmement dangereux de commencer à rentrer dans son intimité et à se dévoiler. Ça ne guérit pas personne. Parce que vous demeurez toujours des victimes. Et une victime, c'est les autres qui sont coupables et non jamais elle. Mes frères et sœurs, le Seigneur, s'il avait eu besoin, si on avait eu besoin d'un thérapeute, il nous aurait envoyé un thérapeute, hein? Si on avait eu besoin d'un psychiatre, il nous aurait envoyé un psychiatre, hein? Si on avait eu besoin d'un psychologue, il nous aurait envoyé un psychologue. On avait besoin d'être sauvés. Et il nous envoyait un sauveur. C'est ça qui compte le plus, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est... Je ne suis pas en train de tout balancer. Je suis en train de dire que ces mouvements-là, ils font du bien aux gens. Je le dis, là, je le confesse, ça fait du bien aux gens. Mais ça ne sauve pas personne. Et l'Église n'est pas là pour faire du bien aux gens. L'Église est là pour sauver les gens, amener les gens à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Il y a des églises, c'est des vrais clubs sociaux. Mais on n'est pas là pour être un club social. Et je sais que ça dérange le message de l'Évangile. C'est certain que ça dérange. Vous savez, c'était quoi le secret de Wesley, de Finney, tous les grands hommes qui nous ont suivis? Leur message comprenait 90% de la loi et 10% de la grâce. Et il y a des gens qui étaient brisants d'eux, qui se confessaient leurs péchés, qui se repentaient. Aujourd'hui, on a reviré ça de côté. C'est 90% de la grâce et 10% de la loi. Et souvent, on n'a fait que des religieux dans nos églises. Quand vous regardez Jésus, il n'a pas été avec le dos de la cuillère, hein? Heureusement qu'il n'est pas venu pour se faire aimer des hommes, pour se faire accepter. Parce qu'il attendra encore. Hein? Parce que le pécheur, tant aussi longtemps qu'il n'a pas pris conscience qu'il est pécheur, il n'en a rien à cirer de Dieu, frères et sœurs. Voilà pourquoi on doit parler de la loi. On doit l'amener à réaliser que c'est une bonne personne, mais que les bonnes personnes vont quand même aller en enfer et qu'il a besoin non pas de rester dans son centré sur lui-même pour se croire une bonne personne et que ça suffit, mais il a besoin de réaliser que devant Dieu, il est perdu. Parce que les critères, les exigences de Dieu sont tout à fait différents de ceux du monde. Jésus nous a dit, il n'y a qu'un seul qui est bon. Les gens se disent, ah, moi je suis une bonne personne, je vais aller au ciel. Un seul qui est bon, dit Jésus, c'est Dieu. On a une très haute estime de nous souvent. Alors Dieu, c'est pas, il ne veut pas nous traiter en victime, il veut nous traiter en pécheur pour faire en sorte qu'on devienne ses enfants. Ses enfants. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'à la croix, non seulement on reçoit le pardon des péchés, mais aussi la délivrance de la puissance que le péché exerçait dans ma vie. J'ai été esclave d'un péché, moi, je vous l'ai déjà dit, hein? Esclave d'un péché quand j'étais dans le monde. Et Dieu m'a délivré de ce péché. C'est ça pour tout, c'est ça pour la boisson, c'est ça pour la cigarette, c'est ça pour tout. On vient puis on lui remet. On lui ramène, Seigneur, je crois que tu délivres encore aujourd'hui. Alors prends, Seigneur. Amen. Jésus est supérieur à un grand prêtre terrestre parce que ses disciples ont pris l'engagement de vivre comme Dieu le demande et de se soumettre à sa volonté. Deuxièmement, notre grand prêtre est quelqu'un de compatissant, verset 15. Et là, on va essayer de mettre l'emphase là-dessus. Verset 15. Parce qu'il s'est identifié à nous qu'en tant qu'homme. Voilà pourquoi il est capable de compatir. C'est pas celui qui est là-haut, au troisième ciel, puis qui regarde sa créature de loin, puis il les voit pleurer, il les voit souffrir, puis il ressent rien. Hey, il s'est fait homme. Il a passé par les mêmes tribulations que vous avez passées. Il a vécu les mêmes tentations que vous avez vécues. Il a vécu les mêmes épreuves que vous avez vécues. Il vous comprend parfaitement, frères et sœurs. Amen. Ah ouais, j'entends des chrétiens qui vivent telle chose. Ouais, mais je dis, ben écoute, prends un temps avec le Seigneur. Oui, mais il ne me comprend pas, il ne comprendra pas le Seigneur. Hein? Ben oui, il va te comprendre. Hein? Ben oui, il s'est fait homme pour apprendre à encore pour aller mieux, quoi. Mieux nous comprendre. Il a vécu, il est passé par tout ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de raison d'aller le trouver pour. On n'a pas de raison de ne pas aller le trouver pour avoir les solutions. Il a les solutions. Ce verset dit clairement, verset 15, en parlant de Jésus, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et un des problèmes avec un prêtre humain, c'est qu'il ne peut pas savoir ce que vous vivez intérieurement parce qu'il n'a pas expérimenté toutes les situations que vous vivez. Je vais vous partager quelque chose. Il y avait une sœur qui est maintenant auprès du Seigneur, il y a quelques années, elle a eu exactement le même cancer que moi. Il y a un nombre incroyable de personnes qui sont allées la trouver à l'hôpital, qui la visitaient. Quand je suis allé la visiter, vous savez ce qu'elle m'a dit? Ah! J'attendais votre visite parce que vous, vous savez ce que je vis. Elle n'était pas en train de diminuer les autres visites qu'elle avait eues, elle était contente. Mais elle savait que c'était très difficile pour ceux qui n'avaient jamais vécu un cancer, qui n'avaient jamais passé par la chimio, que c'était très difficile pour eux de se mettre à sa place, couché dans un lit, complètement amaigri. Elle savait que ces gens n'étaient pas capables de se mettre à sa place. Et quand je suis arrivé, c'était comme un petit miracle qui soufflait sur elle, un pasteur. Vous allez avoir les paroles à me donner parce que vous avez passé par là. Moi, je peux vous dire une chose, quand je l'ai rencontrée, j'avais beaucoup de compassion pour elle, parce que je savais ce qu'elle vivait. Notre frère Jean, il a commencé sa chimio. Quand on s'est parlé au téléphone la semaine passée, je le voyais qu'il était tout pimpant. Je lui ai dit, Jean, ça c'est une étape. Maintenant, Jean, moi je sais ce que tu vas vivre. Je vais prier pour toi. Je te dis, tu vas passer des moments difficiles. Je ne veux pas te décourager, je veux que tu t'attendes à passer des moments difficiles. Mais rappelle-toi que le Seigneur est là dans ta maladie, dans ta thérapie. Le Seigneur va être là, Jean, tu ne seras jamais, jamais tout seul. Je suis capable de lui parler parce que j'ai passé par ces moments-là, quoi. Et j'ai eu le soutien de l'Église pour les prières. Je me souviens qu'on était 40 ici à des soirs pour prier pour que le Seigneur me guérisse. Et ça, c'est important. Jésus s'est fait homme parce qu'il est maintenant capable de compatir. C'est important. Il est capable de compatir. L'expression « puisse compatir à nos faiblesses » ici dans le texte signifie être affecté au point de ressentir la même chose. C'est plus que juste ressentir notre douleur, c'est l'idée de savoir ce que nous ressentons avec le désir de nous aider. C'est un cœur bienveillant qui tend la main pour aider la personne qui souffre. Un jour, j'ai dû passer une gastroscopie. Hein. Ici, on engourdit un peu la gorge, hein? Au Québec, c'est radical, on trempe ça dans la bouche, puis avec rien. Hein? Alors, vous savez ce que ça fait quand on met quelque chose dans la bouche? Hein? Ouais. Et là, moi, j'en avais ras-le-bol. À un moment donné, je me suis dit, si ça dure encore 15 secondes, j'arrache tout, quoi. Hein? Et il y a un infirmier, hein? je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il a ressenti ce que je vivais, mais il m'a simplement fait ça. Ça m'a calmé. Il aurait pu laisser une minute, le tube. Hein? Ça m'a calmé. C'est incroyable, quoi. Hein? Il a peut-être passé par là, lui aussi, à un moment donné, mais il a juste mis sa main. Hein? Une petite caresse, quoi. En voulant dire, t'en fais pas, ça achève. C'est ça, on va la compassion, hein. Ouais. Être capable de se mettre à la place de l'autre. On parle de l'empathie dans le monde, mais la compassion, c'est plus loin que ça. C'est pas juste de se mettre à la place de l'autre, mais c'est aussi ressentir la douleur que l'autre vit, aussi. C'est cette idée que Matthieu veut partager lorsqu'il dit « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Frères et sœurs, je ne suis pas là pour me faire aimer de vous, je suis là pour vous dire ce que le Seigneur me met à cœur de vous dire. Souvent, on n'évangélise pas parce qu'on n'a aucune compassion pour ceux qui sont perdus. Aucune compassion. On peut trouver toutes les excuses. Que moi, je n'ai pas le don. Tu n'as pas besoin d'un don, hein? Va raconter ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ça suffit, hein? C'est ça l'évangélisation. Ému de compassion, le Seigneur. Du haut du ciel, ça a commencé du haut du ciel, ému de compassion. Et il a dit, je vais me mettre comme les gens, je vais devenir comme eux. je vais ressentir tout ce qu'ils ressentent. Et quand on dit que Jésus était ému de compassion, parce qu'elle était languissante, la foule, et abattue, il ressentait au plus profond de lui-même ce désespoir que les gens vivent. Frères et sœurs, est-ce que vous ressentez le désespoir que les gens vivent à l'extérieur? Il y a un petit bout de film de 4 minutes qui est passé sur YouTube il y a 3 semaines, où un couple est complètement recroquevillé sur le trottoir. Ils se sont piqués à l'héroïne, ils sont complètement paralysés. Il y en a un qui est plié en deux comme un pont. La femme, elle est dans les airs, une patte dans les airs, elle ne bouge pas. Et la foule passe. Vous savez ce qu'ils font, la foule? Ils filment. Ils filment. C'est un spectacle pour eux. Un spectacle. Mais c'est épouvantable, quoi. C'est épouvantable de voir ce spectacle-là. Eh bien, je rends gloire à Dieu parce que le bonhomme, ils s'en sont réchappés. C'est un couple marié de 30 ans. Quand lui a vu ce qui avait été projeté sur YouTube, qu'il a vu le légume qui était devenu, la risée du monde qui était devenue, il est rentré en thérapie pour se faire soigner, pour être libéré de la drogue, pour être libéré de l'héroïne. Mais c'est pour vous montrer que le monde n'a aucune sympathie, aucune compassion pour ce qui arrive aux autres très souvent. Le Seigneur, je pense que s'il avait vu ces deux personnes-là, ça serait penché, il aurait essayé de les relever, il aurait prêché, il aurait annoncé l'Évangile. Tu ne trouveras jamais ta solution dans l'héroïne. L'héroïne, tu penses que c'est un paradis? Non, l'héroïne, c'était l'enfer. L'enfer, l'héroïne. Pourquoi ils vont dire l'enfer de la drogue? Hein? Oui. Le Seigneur leur aura parlé, leur a parlé du vrai paradis. C'est notre raison d'être, frères et sœurs. Comment Jésus a-t-il pu réussir à avoir ce genre de compassion pour les gens? Il a pu y arriver en devenant un homme comme nous. Il a, lui, de lui-même, renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Lorsque Dieu est devenu un homme, il a élargi son expérience. Nous sommes tous d'accord. Okay. Nous sommes tous d'accord pour dire que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout et que rien ne lui échappe. Nulle créature, verset 13, hein, chapitre 4, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Avez-vous déjà pensé, frères et sœurs, maintenant, traitez-moi pas d'hérétique, là, essayez de réfléchir à ce que je vais dire. Avez-vous déjà pensé au fait qu'il y a des choses que Dieu savait en les ayant observés et non pas en les ayant expérimentés? Il y a certaines choses que Dieu ne saurait jamais par expérience. Par exemple, il ne saurait jamais ce que c'est que de dire un mensonge. C'est-à-dire de ressentir, quand tu as vécu comme un mensonge, l'état dans lequel tu te trouves, Dieu ne pourra jamais expérimenter ce genre de choses. Il ne saura jamais ce que c'est que d'enterrer sa mère parce que Dieu est éternel, il n'y a pas une mère. Il ne saura jamais ce que c'est que de laisser tomber quelqu'un, il ne nous a jamais laissé tomber. Il connaît ces choses en les ayant observées, mais non pas en les ayant expérimentées. Je vais vous donner des exemples. Lorsque Dieu a devenu un homme, il a connu certaines choses qu'il avait pu connaître simplement par observation auparavant, alors qu'il était dans le ciel. Voici certaines de ces choses qui sont négatives en soi lorsqu'il était sur la terre et qu'il a connu en tant qu'homme. La faim. Pensez-vous que Dieu, qui était supplé, a besoin de manger au ciel? Non. Hein? Dieu n'avait jamais expérimenté la nourriture. Hein? En Jésus-Christ, en se faisant homme, non seulement il a eu besoin de manger, mais il a expérimenté la faim. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Deuxièmement, le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus, il venait de quitter Béthanie, Jésus a eu faim. Il a eu soif. Dieu dans le ciel n'a pas soif. Il n'aura jamais soif. Mais en tant qu'homme, il est passé par tout ce que nous avons passé. Il a expérimenté ces choses, ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne savait pas rien là, de ça, mais il les a expérimentées. Il ne s'est pas amusé à simplement les observer. Il a expérimenté. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jean 4, 7, Jean 19, 28, après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, c'est vrai que ça répond à la prophétie, mais il dit pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif. » L'angoisse. Jésus se met à genoux dans le jardin de Gethsémané. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de douleur, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » La fatigue. Jésus est à l'arrière du bateau, il dormait la tête appuyée sur un coussin. Est-ce que Dieu est fatigué dans le ciel? Jamais. Est-ce que Dieu a soif dans le ciel? Jamais. Mais c'est des observations qui se voient de la part de Dieu, mais qu'il n'a pas expérimenté en tant qu'esprit. Mais il se fait homme, il vit tout ce que vous avez vécu. Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir, frères et sœurs. Peu importe ce que vous vivez, Dieu y est passé par tout ce que vous vivez en Jésus-Christ. Alors, il vous comprend mieux encore qu'un pasteur, mieux qu'aucun être humain, frères et sœurs. Là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué, Jean 4, 6, du voyage, s'assit au bord du puits, il était environ midi, ému et troublé. Jésus vit qu'elle pleurait, Marthe et Marie, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé. Il a été abandonné. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. La souffrance, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, Ésaïe 52, Ésaïe 53. L'indignation, il a connu l'indignation. Vous regarderez hein, sur Internet, on va prendre trop de temps pour tout citer les versets. Il a été détesté. Il a été dans le besoin en tant qu'homme. Il a dû se soumettre en tant qu'homme. Il a été déçu en tant qu'homme. Dieu ne se soumet pas à personne dans le ciel, hein? Et Christ a dû apprendre la soumission en tant qu'homme. Il a dû apprendre l'obéissance en tant qu'homme. Pas de problème avec Dieu qui est esprit. Mais Jésus, Dieu en tant qu'homme, l'a expérimenté, il l'a vécu et il vous comprend. L'incompréhension de sa propre famille. Il a été rejeté par les membres de sa propre famille. Il a été méprisé, il a été trahi, il a grandi en sagesse, il a dû grandir en sagesse en tant qu'homme. Dieu n'a pas besoin de ça dans le ciel, il est esprit. Il a toute la sagesse qu'il faut, hein? Et on a besoin de passer, et vous allez en tant que chrétien, passer par les mêmes expériences que Jésus a passées. Les gens dans l'Église qui vous disent qu'ils sont vos frères, qui sont vos amis, qui vont vous poignarder, vous allez en connaître. Ça fait partie de la vie chrétienne. Si Dieu n'a pas épargné Jésus, il ne vous épargnera pas non plus. Ça fait partie de votre formation. Je ne suis pas en train de dire que c'est une église qui vaut rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. L'église, ce n'est pas le paradis. Ça demeure une école de formation pour les frères et sœurs en Jésus-Christ. Et la terre, c'était une école de formation pour le Seigneur Jésus en tant qu'homme. Voici maintenant certaines choses qu'il a vécues qui sont positives en soi. L'amour. Jésus regarda le jeune riche avec amour. On dit que Dieu nous aime. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit aux gens que Dieu les aime? Il faut amener des exemples, hein? Si on parle tout de suite de la croix, les gens ne comprennent pas tous, hein? Marc, chapitre 10, verset 21. Il regarde le jeune homme riche avec amour. Avec amour, frères et sœurs. Et pourtant, le jeune homme riche, il venait juste de rejeter l'invitation que le Seigneur lui avait faite. Le Seigneur, il n'a pas dû être votant. Toi, maintenant, je t'ai enseigné, puis j'ai voulu t'amener au Seigneur, puis tu ne veux rien savoir. Il a regardé avec amour. Frère et sœurs, cet amour qui transpire du Seigneur Jésus, c'est ce qui doit transpirer dans nos vies. Parce qu'on a son esprit. L'amitié, il a connu l'amitié. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Mon ami, notre ami Lazare. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Vous pensez que le Seigneur, il les serrait pas, il ne les prenait pas dans ses bras. Hey. En tant qu'être humain, il le faisait. Hein? C'est pas, attendez un peu, moi je viens du ciel, là, vous avez une certaine distance. Vous, vous êtes un peu, moi je suis peu. Non. Il s'est identifié aux pécheurs. Il allait avec eux. Si ce n'était pas identifié à nous, ça ne serait jamais fait baptiser, frères et sœurs, parce qu'il était sans péché. Il l'a fait pour s'identifier à nous. Vous réalisez quel Dieu on sert et quel Dieu qui nous a sauvés? Quand on dit que Dieu s'est humilié, là, il n'y a personne dans sa vie qui va s'humilier comme Dieu s'est humilié en Jésus-Christ. Personne. Hein? Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce que je vous ai tous fait connaître la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La compassion, on l'a dit tantôt. L'émerveillement, après avoir entendu, Jésus fut dans l'émerveillement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. L'étonnement, il était surpris que les gens s'étonnent de leur incrédulité. Il parcourait les villes et les villages en alentour et les enseignait. Il était étonné. C'est comme nous, hein, quand on parle du Seigneur, on est étonné que les gens ne comprennent pas. Hein? On est étonné. Et quand on en a un qui prend une décision, on est émerveillé. Hein? Et c'était la même chose pour le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Frères et sœurs, ce que vous ressentez en tant qu'émotion et sentiment, le Seigneur Jésus, Dieu a voulu en Jésus-Christ les partager, les expérimenter. C'est pour ça que quand vous parlez avec des gens qui disent « Ouais, mais Dieu, mais tu sais, Dieu est au ciel, un matin un peu, tu es venu, hein? » Est-ce que tu vis l'expérimenter? Il a tout expérimenté. Et en expérimentant tout ce que nous vivons, il a aussi les réponses à tout ce que nous vivons. Et les réponses, on les trouve dans la parole de Dieu. Jésus était tenté en toutes choses. Hébreux chapitre 4, verset 15. « Comme nous le sommes, mais sans jamais succomber à la tentation, il n'a pas commis de péché et aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. » 1 Pierre 2, 22. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il a été tenté en toutes choses, cela signifie qu'il a été tenté de la même manière que nous sommes tentés. Et la tentation à laquelle il a fait face dans Marc chapitre 1, verset 11, est pareille à celle que Ève a expérimentée dans le Jardin d'Éden. Il a été tenté de la même manière que nous le sommes tous. Le diable a cherché à l'amener à vouloir satisfaire ses propres désirs, à posséder ce qu'il voyait, ainsi que l'amener à amasser le plus possible de biens terrestres. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes occupé à travailler dans ces trois choses-là, hein, ben vous n'avez plus le temps de prendre du temps avec le Seigneur. Hein, vous êtes trop occupé, quoi. Hein, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, Jean chapitre 2, verset 16. Hein, toutes ces choses viennent non pas du Père, dit Jean, mais du monde. Nous savons que Jésus n'a pas été tenté de voler une voiture, de cambrioler une banque, il n'y en avait pas. Jésus n'a pas été tenté d'utiliser frauduleusement la carte de crédit de quelqu'un d'autre, d'aller jouer au casino ou de parier sur le résultat des matchs sportifs, il n'y en avait pas. Mais la plupart de ces choses existaient, n'existaient pas à cette époque, et d'autres n'en faisaient pas partie dans sa vie. Mais le diable a essayé de l'amener à satisfaire ses propres désirs ou à posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Tous ces péchés que nous venons d'énumérer appartiennent à une de ces trois catégories que Jean mentionne dans sa première épître au chapitre 2, verset 16. Chers amis, parce qu'il n'a pas succombé à la tentation et qu'il a remporté la victoire sur chacune d'elles, je le répète, il a la capacité de nous réconforter, de nous fortifier lorsque nous sommes tentés. Il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et par la souffrance, nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. De plus, les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes, nous dit la parole. Dieu est fidèle à ses promesses, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation, dit Paul, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. John Wilson fut missionnaire en Inde. Il raconte qu'il avait été invité un jour par l'armée du salut à prêcher à Chicago. C'est le colonel Booth Tucker qui présidait la réunion. Et ce soir-là, après avoir péché sur la compassion de Dieu, de Jésus, un homme est venu vers lui en lui demandant comment il pouvait parler d'un Dieu aimant, compréhensif et compatissant. Il dit à John Wilson ceci, « Si votre épouse venait juste de mourir, comme c'est présentement mon cas, et que vos enfants crient après leur mère et que vous savez qu'elle ne reviendra jamais, vous ne diriez pas ce que vous avez dit ce soir. » Quelques jours plus tard, l'épouse du missionnaire perdit la vie lors d'un accident de train. Son corps fut transporté à Chicago et porté à la citadelle de l'armée du salut pour le service. Après la cérémonie, le prédicateur en deuil fixa le visage sur son épouse, puis se tournant vers ceux qui étaient présents, il leur dit ceci. « L'autre jour, lorsque je suis venu prêcher ici, un homme m'a dit que si mon épouse venait à mourir et que je voyais mes enfants pleurer, parce qu'ils désirent voir leur mère, je ne serais pas capable de dire que Christ comprenait ce que je vivais et qu'il compatissait ou qu'il était suffisant pour tous mes besoins. Si cet homme est dans cette salle aujourd'hui, je veux lui dire que Christ est suffisant. Mon cœur est brisé, je suis écrasé, mais j'ai un cantique que Christ a placé dans mon cœur. Je veux dire à cet homme que Jésus-Christ m'a donné des paroles de réconfort aujourd'hui, malgré ce que je vis. » L'homme de qui John Wilson parlait était dans la salle, et lorsque John Wilson eut terminé, cet homme s'avança en avant, s'agenouilla à côté du cercueil en larmes, tandis que le colonel Booth Tucker l'amenait à recevoir Jésus-Christ. Frères et sœurs, si ce n'est pas à travers la parole que le Seigneur va venir nous réconforter, c'est à travers les chants, les cantiques qu'on chante le dimanche. Il va nous donner des paroles. Il y a un chant qui va monter dans notre cœur. Le Seigneur, écoutez, il n'est pas à court de ressources pour nous réconforter, pour nous encourager, pour nous fortifier. Il s'agit de nous présenter devant lui. Et rapidement, verset 16, notre grand prêtre est notre refuge. On dit notre sanctuaire, mais c'est notre refuge aussi. Hein? Parce que Jésus, ce que nous comprend, ce que nous vivons en tant qu'être humain, et parce qu'il a supporté toutes les tentations qui sont présentées devant lui, il est capable de nous aider, peu importe ce que nous vivons dans nos vies. Voilà pourquoi il nous invite, dans ce verset, à nous approcher de lui dans les moments difficiles. Il dit, regardez, c'est magnifique, regardez le verset 16 ensemble. Il dit ceci, « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. » Frères et sœurs, le Seigneur, il dit, « Approchez-vous, n'ayez pas peur, approchez-vous. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce. C'est là que se trouve Dieu. » Les Juifs n'avaient aucune idée de ce que l'auteur était en train de dire ici, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer un Dieu qui invitait les gens à venir se présenter devant lui quand ça leur plaisait. Dans les temps anciens, vous pouviez approcher un roi seulement lorsqu'il vous invitait à vous approcher de lui. Alors, ça c'était contraire à tout ce qu'on leur avait enseigné. Approchez-vous du trône de la grâce. Rappelez-vous Esther. Quand sa femme pouvait s'approcher de lui, elle devait toucher son sceptre, imaginez. Elle devait toucher à son sceptre pour être acceptée de voir son mari qui était roi. Alors, les Juifs, ils ont cette pensée-là dans la tête, et là, c'est tout nouveau pour eux. Approche-toi du roi des rois. Approchez-vous du trône de la grâce. L'auteur de l'Épître aux Hébreux veut que nous sachions que nous pouvons nous approcher de Dieu à tout moment et aussi souvent que nous le voulons. Sous la loi, le grand prêtre pouvait venir se présenter devant Dieu une seule fois par année, lors du jour de l'expiation et seulement avec le sang d'une bête innocente qui avait été sacrifiée. Mais lorsque Jésus est mort, il a satisfait aux justes exigences d'un Dieu trois fois saint. Chers amis, le trône de Dieu n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce. C'est un trône de grâce. Les enfants de Dieu peuvent approcher le Seigneur à tout moment pour demander et recevoir de l'aide. J'irai jamais me présenter devant le roi des Belges ni devant le président américain avec un pyjama. Vous pouvez vous présenter en pyjama devant le roi des rois dans votre lit. Vous pouvez vous présenter, peu importe la façon dont vous êtes habillé, le Seigneur, ce n'est pas sur votre habillement, dans votre intimité qu'il regarde, c'est ce que vous avez à partager avec lui. Si je devais arriver, moi, au Palais Royal, ici, en Belgique, avec un pyjama et mes pantoufles, non seulement je ne verrais pas le roi des Belges, mais on appellerait une ambulance pour m'envoyer à Notre-Dame-des-Anges. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pas avec le Seigneur. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Vous imaginez s'il avait décidé, écoutez, un petit peu d'orgueil, s'il avait juste un peu d'orgueil, le Seigneur. Okay. Voici maintenant les exigences pour être capable de comparaître devant moi ou de vous présenter devant mon trône. Moi qui est le roi des rois, moi qui est au-dessus de toutes choses, moi qui vis depuis toute éternité, voici mes exigences. Frères et sœurs, ça nous prendrait une éternité pour répondre à ces exigences. Une éternité. Regardez. Vous avez vu les exigences ici? Approchez-vous donc avec assurance, du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance. Quand tu t'approches du trône de la grâce, Dieu ne fait pas ça comme ça. Dieu te regarde. Et si tu as un péché à confesser, tu es devant le trône de la grâce. Il est fidèle et juste pour pardonner tout péché. C'est pas merveilleux, ça? Je vais vous dire quelque chose pour vous encourager. Il y a des hommes et des femmes qui sont plus exigeants pour pardonner à quelqu'un que Dieu peut l'aider. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à oublier nos péchés que Dieu peut l'être. Dieu ne nous remettra jamais un péché qu'on a commis dans le passé sur le nez. Il y a des gens qui s'amusent à le faire. Pas extraordinaire, c'est ça le trône de la grâce. La loi, elle ne cherche que des coupables. La loi, elle ne cherche qu'à écraser. Le trône de la grâce. Il y en a un qui a été traité coupable. Il y en a un qui a été écrasé. Ça suffit. Ça suffit, c'est fait une fois pour toutes. Quand on vient devant le trône de la grâce de Dieu, ce n'est pas pour être écrasé. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour y trouver la miséricorde et le pardon. C'est pas moi qui dis, verset 16, j'espère que je ne suis pas à côté de mes pompes, mais c'est ce qu'il dit ici. Hein? Lorsque ses enfants viennent à lui dans les moments difficiles, il leur promet qu'ils obtiendront le pardon et qu'ils y trouveront la grâce pour être secourus au bon moment, pour être secourus au bon moment. Frères et sœurs, quand vous priez et que vous entendez un non de la part de Dieu ou qu'il ne répond pas, vous savez ce qu'il est en train de vous dire? Si je te réponds tout de suite, tu vas être privé de quelque chose encore plus grand que je réservais pour toi. Donc, je ne te réponds pas tout de suite. Attends. Développe ta patience parce que si j'attends, c'est parce que j'ai quelque chose encore de meilleur pour toi. Développe ta patience. Sois pas impatient. Je vais te répondre. Et prends mon nom pour l'instant comme une réponse. Prends-le comme une réponse. Mais tu vas voir. Tu vas voir que la situation, ce que tu es venu porter devant mon trône de grâce, tu vas voir, toi, tu voudrais avoir ça. Mais moi, je vais te donner ça. Et il y a un verset, Paul dit, hein, que ce qu'on demande, des fois, on obtient au-delà de ce qu'on a demandé. Et le Seigneur, il ne veut pas nécessairement nous donner ce qu'on demande. Il veut nous donner très souvent au-delà de ce qu'on a demandé. Pourquoi nous contenter des miettes qui tombent à terre quand le Seigneur veut nous donner la table au complet à manger? Pourquoi? Si on est impatient, on va se contenter des miettes. Ce que le Seigneur veut nous donner, c'est un festin à dévorer. Mais on est souvent impatient et la patience, c'est un fruit de l'esprit qu'on doit apprendre à développer. Que le Seigneur nous aide à nous approcher de lui lorsque nous traversons des épreuves et lorsque nous faisons face aux tentations que le malin dirige sur nous. David disait à son époque, « Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. » Psaume 63, 7. Et il connaissait bien les ruses du malin, il en avait fait les frais dans le passé. Et David dira ceci de lui. Son discours, en parlant du malin, son discours est tout sucre et tout miel. Mais son intention, c'est de vous attaquer. Ses propos sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des poignards prêts à frapper. Déchargez-vous de tout souci sur le Seigneur. Il vous maintiendra debout. Il ne laissera jamais le fidèle chanceler. Psaume 55, versets 22-23. Frères et sœurs, que le chrétien chancelle, il n'est pas encore tombé, hein? Il chancelle, hein? Mais l'image que j'ai eue en préparant le sermon, c'est un jeu de quilles. On veut faire un abat, et c'est ce que le diable veut faire, hein? Il veut faire un abat, il veut nous abattre. Et il arrive qu'il y a des chrétiens, au lieu de tomber, vous voyez la quille, là, vous êtes là, je ne sais pas si vous avez déjà joué au bowling, mais là, vous voulez avoir un abat, vous voulez que les 10 tombent, mais là, vous voyez une, hein? Ouais. Mais c'est ça, chanceler, elle n'est pas tombée, hein? Elle a chancelé, mais elle n'est pas tombée. Elle est restée debout, hein? Et le psalmiste, il nous dit que le Seigneur ne laisse pas. Ne laisse pas toujours le fidèle chanceler. Quant à l'apôtre Paul, il écrit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Conclusion, avez-vous besoin d'aide ce matin? Faites-vous face à des épreuves qui menacent de vous engloutir ce matin? Avez-vous jamais eu à faire face à des tentations qui vous paraissent être au-dessus de vos capacités de résistance ce matin? En Jésus, nous avons un grand prêtre qui est assis dans les cieux à la droite du trône de Dieu, la puissance suprême. Il exerce ses fonctions dans le sanctuaire, et c'est-à-dire dans la tente véritable dressée par Dieu et non par un homme. Quand il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang des boucs et des veaux, il a offert son propre sang et il nous a définitivement délivré du péché. C'est pas Jacques Hudon qui le dit, Hébreux chapitre 9, verset 12. Il compatit à tout ce que vous vivez. Il veut répondre à tous vos besoins et il est votre refuge lorsque vous vivez des moments difficiles. Frères et sœurs, à qui vous réfugiez-vous quand vous vivez des moments difficiles? Votre première réaction, vous allez voir le Seigneur ou vous allez voir les hommes à droite et à gauche? Si vous allez voir le Seigneur, je peux vous dire une chose, vous n'aurez pas besoin d'aller voir aucune femme ni aucun homme. Le Seigneur, il ne vous laisse pas dans les vapes. Le Seigneur, il ne vous laisse pas dans le brouillard. Sa parole, elle est claire, elle est précise, elle est tranchante. Vous a-t-il parlé ce matin concernant un besoin particulier? Si c'est le cas, venez à lui et vous trouverez l'aide dont vous avez besoin aujourd'hui. Amen. Et frères et sœurs, tant et aussi longtemps que vous vivez sur cette terre, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui vous attend en tant qu'épreuve, en tant que difficulté. Parce que si vous appartenez au Seigneur Jésus, c'est à travers les épreuves et à travers les difficultés que votre foi va grandir. Quelqu'un qui vit, qui s'est calme, comme la mer morte, c'est calme. Sa foi, elle reste toujours au même niveau. Et c'est vraiment à travers les difficultés et les épreuves qu'on grandit, parce que c'est dans les difficultés et les épreuves qu'on voit non seulement Dieu agir, mais nous donner aussi la solution. Amen. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus, ce n'est pas juste notre Sauveur, c'est aussi notre grand prêtre. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour vous. Il intercède. Il prie pour vous. Il prie. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique en terminant.